de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Écrivain californien issu de la misère, connu pour son roman « L'appel de la forêt », Jack London est né par et grâce à la littérature qui lui donna la vie et lui offrit une chance lorsqu'à 9 ans, il découvrit des histoires d'enfants misérables devenus célèbres auxquels il put s'identifier. Le petit Jack a 10 ans quand sa famille s'installe à Auckland, où il rencontre une poétesse qui gère la bibliothèque bien fournie de la ville et lui offre de le guider dans ses lectures, et il sort enfin bien scolarisé. Mais la misère et le malheur ne le lâchèrent jamais et l'attendirent au tournant. Jack, dont le nom de London est celui de son beau-père, fit les métiers les plus durs de la fin du XIXe siècle et dans les pires conditions. Balayeur, éleveur de poulets et ouvrier. Il faut lire « Le cabaret de la dernière chance », son récit autobiographique. On connaît la suite, ses voyages, ses boulots terrifiants, ses premières publications dans un journal local, son engagement politique et la prison, l'alcoolisme, ses velléités de chercheur d'or, la maladie et toujours les voyages et l'aventure qui ne s'arrêteront jamais jusqu'à la mort, dans la maladie et le suicide. Mais il ne cesse d'écrire. Et les très fameux Cro-Blanc, L'appel de la forêt, Martin Eden font partie de ces livres qui cachent l'œuvre foisonnante. Depuis, il est devenu lui-même un héros de roman. En 1986, Marie-Claire Pasquier et Jacques Taroni mirent en onde une des nouvelles parmi la quarantaine écrite par Jack London.
Est un de ces auteurs, comme Fenimore Cooper, ou comme Mark Twain, ou comme Jules Verne, qui vous marquent et qu'on n'oublie pas parce qu'on les lit très tôt. Et quand on lit Cro-Blanc ou L'appel de la forêt, on pleure en les lisant parce qu'on a 10 ou 12 ans quand on les lit. Et l'histoire qu'on va entendre est justement une histoire de larmes. À la différence de Jules Verne, qui restait assis dans sa bibliothèque pour écrire ses livres, Jack London, qui a écrit, lui, plus d'une cinquantaine de livres, bien qu'il soit mort à 40 ans à peu près et qu'il se soit suicidé comme le héros de son roman Martin Eden, Jack London a été toute sa vie un aventurier, un bourlingueur, comme on dirait. Dès 12 ans, il a commencé à naviguer sur la baie de San Francisco, puisqu'il était né à San Francisco, avec un tout petit bateau et il se livrait à une activité très lucrative, il s'agissait de piller les parcs à huîtres. Et puis ensuite, à 17 ans, il s'est engagé comme matelot sur un schooner. Et dès qu'il a gagné de l'argent, avec ses premiers écrits, 2 000 $ avec l'appel de la forêt, il s'est acheté son propre bateau. Et ensuite, il a rêvé de se construire lui-même son propre bateau. Il a fini par le faire, c'était le Snark, qu'il a appelé le Snark à cause de Lewis Carroll. Et ce bateau a été le commencement de ses malheurs, parce que ça a été une plaie d'argent, il allait de dette en dette. Le bateau n'était pas tellement bien construit. Jack London a quand même embarqué et il est allé, en hommage à Melville et à Stevenson, il est allé dans les mers du Sud, à Hawaï, où se passe l'histoire qu'on va entendre, les larmes de Hakim, aux îles Marquises. Mais il est tombé malade, il a eu les mains brûlées, et à partir de cette expédition, qui a été bien pénible et difficile à plus d'un titre, il a écrit toute une série d'histoires, dont celles qui ont été recueillies sous le titre « Histoire des îles ». Et c'est dans ce recueil « Histoire des îles » qu'on trouve l'histoire « Les larmes de Hakim ». Une chose qu'on remarquera, même s'il envoyait des histoires au magazine Cosmopolitan, qui lui donnait un peu d'argent pour arriver à faire marcher son bateau, les problèmes d'argent étaient pour lui absolument obsédants. Et on trouve un écho de cette obsession dans tous ses récits, en particulier dans « Les larmes de Hakim ». On ne s'étonnera pas de voir le héros qui passe son temps à faire ses comptes, comme sans doute London lui-même.
Check London, The Tears of Hakim. Les cris redoublaient, mais personne ne s'en souciait dans le quartier chinois de Neu-Lulu. Ceux qui les entendaient se contentaient de hausser les épaules et souriaient avec indulgence. « Qu'y a-t-il ? » demanda Shinmo, alité à la suite d'une pleurésie aiguë, à son épouse qui venait de se pencher une seconde à la fenêtre.
« Ce n'est que Hakim, » répondit-elle. « Sa mère est encore en train de le battre. »
La scène se déroulait dans le jardin, derrière l'appartement attenant au magasin qui étalait sur la rue l'enseigne orgueilleuse « Société Hakim, commerce en tout genre. » Ce jardin de 20 pieds carrés parvenait adroitement à tromper l'œil et à donner l'illusion d'une étendue sans limite. On y trouvait des forêts de pins et de chênes nains de 2 ou 3 pieds de haut, bien que vieux de centaines d'années, importés à grands frais. Un petit pont, long d'un pas, s'arquait au-dessus d'un fleuve minuscule rempli de poissons rouges en nageoires d'une merveilleuse couleur orangée. Proportionnellement au lac et au paysage, ils atteignaient la taille de baleines. De chaque côté donnaient les nombreuses fenêtres des magasins à plusieurs étages.
Au milieu du jardin, dans les 3 sentiers couverts de gravier qui contournaient le lac, Hakim recevait sa volée en poussant des cris d'orfraie. Hakim avait pourtant passé l'âge tendre où l'on vous administre les taloches. Propriétaire des magasins de la société Hakim, il jouissait d'une belle fortune acquise au prix de longues années de labeur et d'économie. Parti comme simple tâcheron coulis au maigre salaire, il possédait maintenant en banque un crédit aux marges dorées. Un demi-siècle avait doté Hakim d'un embonpoint douillet et confortable. Petit de taille, il présentait un front arrondi comme la graine de pastèque et un visage de pleine lune. Son riche costume de soie et sa calotte noire, garni d'un bouton rouge en ce moment hélas tombé sur le sol, le classait parmi les marchands les plus honorables et les plus opulents de sa race.
Toutefois, pour l'instant, son apparence n'offrait rien de reluisant. Sautant et plongeant en avant pour éviter la grêle de coups que lui a sonné une canne de bambou, il se tenait presque plié en deux. Quand il la recevait sur les doigts et les coudes dont il cherchait à protéger son visage et son crâne, il ne pouvait s'empêcher de grimacer de douleur. Des fenêtres environnantes, les voisins suivaient la scène d'un regard amusé.
La bonne femme maniait la canne avec une adresse née d'une longue pratique. Vieille de 74 ans, elle portait amplement son âge. Ses jambes amaigries étaient enfermées dans un pantalon droit, d'étoffe rigide et des noirs brillants. Ses rares cheveux gris, implacablement tirés à plat en arrière, laissaient voir un front étroit et inexorable. Elle ne possédait pas de sourcils, les ayant perdus depuis longtemps, mais ses yeux, petits comme des trous d'épingle, étaient du noir le plus intense. Son aspect cadavéreux irritait l'œil. Son avant-bras ridé, que laissait voir la manche large, montrait en fait de muscles, quelques cordes tendues entre les os, sous une peau jaune semblable à du parchemin. Le long de ce bras de momie, des bracelets de jade se déplaçaient et s'entrechoquaient à chaque coup donné. Criait-elle d'un ton aigu. Je t'ai défendu de parler à l'IFA. Et elle accentuait ses observations par des séries rythmées de trois coups. Aujourd'hui, tu t'es arrêté avec elle dans la rue. Vous avez causé pendant une demi-heure. Qu'est-ce que cela signifie?
C'est ce téléphone trois fois maudit, bredouilla Hakim, tandis qu'elle s'arrêtait de frapper. Tu tiens ces renseignements de Madame Chang Lucy. Je le sais, elle m'a vu. Je vais faire enlever ce téléphone. Il vient du diable.
C'est en effet une invention de l'enfer, acquiesça Madame Taifu se remettant à l'œuvre. Pourtant, le téléphone restera. J'aime à parler avec Madame Changlusi au téléphone.
Elle a les yeux de 10 000 chats et la langue de 10 000 crapauds, proféra Hakim entre deux plongeons.
C'est une garce à la face impudente et aux mœurs dépravées, renchérit Madame Taifu.
Oui, Madame Changlusi a toujours été ainsi, admit Hakim, en fils respectueux.
Je parle de l'IFA, rectifia la mère en renforçant ses paroles du geste. Elle n'est qu'à moitié chinoise, tu le sais. Sa mère était une indigène éhontée. Elle porte des jupes comme les femmes blanches, sans honneur, et aussi des corsets, je l'ai vu de mes yeux. Et où sont ses enfants? Cependant, elle a enterré deux maris.
Le premier s'est noyé et l'autre a été tué par un cheval, précisa Hakim.
Après une année de sa compagnie, fils indigne d'un noble père, tu serais toi-même heureux d'aller te noyer ou de te faire tuer par un cheval.
Les voisins aux fenêtres manifestèrent leur approbation par des ricanements étouffés, des éclats de rire.
Toi-même as enterré deux maris, mère respectée, répliqua Hakim, piqué au vif.
J'ai eu le bon goût de n'en point prendre un troisième. En tout cas, mes deux maris sont morts honorablement dans leur lit, et non pas sous des ruades de chevaux ou noyés dans la mer. D'ailleurs, est-ce l'affaire des gens si j'ai eu deux maris ou 10 ou pas du tout? Tu m'as rendu ridicule à leurs yeux. Aussi vas-tu le payer maintenant.
Hakim supporta la grêle précipitée des coups, et quand sa mère dut s'arrêter, épuisée et hors d'haleine, il lui dit
« Honorable mère, je t'ai toujours supplié de me battre dans la maison, porte et fenêtre close, et non en public, dans la rue ou dans le jardin. »
Tu as appelé fleur de la lune argentée, cette méprisable Lifa, reprit Madame Taifu.
C'est Madame Changlusi qui te l'a répété.
On me l'a appris au téléphone. Je ne connais pas toutes les voix qui me parlent sur cette machine diabolique.
Fait étrange, Hakim ne tentait aucun effort pour échapper aux foudres de sa mère, ce qui lui était facile. D'autre part, la vieille trouva une nouvelle raison pour continuer à le frapper.
Entêtée, pourquoi ne pleures-tu pas? Mulet qui fait honte à tes ancêtres. Je n'ai jamais réussi à te faire pleurer. Même au temps où tu n'étais qu'un gamin. Réponds-moi, pourquoi ne pleures-tu pas?
Fatiguée et essoufflée, elle lâcha sa canne et se mit à trembler, comme atteinte d'une paralysie nerveuse.
Je ne sais pas. Je suis comme ça, répondit Hakim, considérant sa mère avec tendresse. Je vais t'apporter un siège pour t'asseoir et te reposer. Tu te sentiras mieux.
Mais dédaigneusement, elle le quitta et, à pas incertain, traversa le jardin pour regagner la maison. Hakim, après avoir ramassé sa calotte et lissé de la main ses vêtements froissés, la considérait avec des yeux pleins d'affection, tout en frictionnant ses bosses. Même alors, il sourit, et on aurait pu croire qu'il avait pris plaisir à sa volée.
Thank you.
Il en était ainsi pour Hakim depuis l'époque où, tout enfant, il vivait sur les hautes falaises de la 11e cataracte du fleuve Yangtze. Son père y était né et y trimait depuis son adolescence, comme à l'heure de bateau. À sa mort, Hakim, adolescent, lui succéda dans la même honorable profession. Aussi loin que remontaient les annales de sa famille, tous les mâles y avaient exercé le métier de haleur. Déjà au temps du Christ, ses ancêtres attendaient par-delà l'eau écumeuse, en aval de la gorge, des jonques exactement semblables, étendaient les 400 mètres de cordes attachées à chaque jonque, le long de laquelle les Chinois s'alignaient au nombre de 100 à 200 suivant le tonnage. Pur bétail à deux pattes, ils s'arc-boutaient en avant au point que leurs mains touchaient le sol et tiraient le bateau à travers l'écume jusqu'à l'entrée du canyon. Probablement au cours des siècles successifs, le tarif de ce travail n'avait pas changé. Le grand-père d'Hakim, son père et lui-même, recevaient la même rémunération, le 14e d'un cent par jonque, ainsi qu'il avait appris à évaluer l'argent depuis son arrivée à Hawaï. Pendant les belles journées d'été, lorsque le passage, plus facile, multipliait le nombre des jonques et qu'il faisait clair 16 heures durant, ces 16 heures d'un labeur surhumain lui rapportaient un peu plus d'un cent. En toute une année, un haleur ne gagnait guère qu'un dollar et demi. Les gens devaient vivre sur un tel revenu. Des servantes recevaient pour gage un dollar par an. Les tisseurs de filets de tiwi touchaient entre 1 et 2 dollars l'an. Ils en vivaient, ou du moins ne mouraient pas de faim. Mais pour les coulis à l'heure, il existait de menus profits qui rendaient leur métier honorable et héréditaire. Sur 5 jonques qui passaient la gorge dans un sens ou dans l'autre, au moins une chavirait. 1 sur 10 se perdait corps et biens. Les haleurs connaissaient les caprices et les fantaisies des courants. Aussi, armés de leurs grappins, de leurs gaffes ou de leurs filets, récoltaient-ils du fleuve une humide moisson. Les coulis de plus humbles conditions considéraient avec respect ces favorisés qui pouvaient se permettre chaque jour de boire du thé et de manger du riz de quatrième qualité.
Heureux et fier. Quand, par une âpre journée de printemps sous une tempête de grêle, il ramena sur la rive un matelot de canton en train de se noyer. Tout en se réchauffant à son foyer, cet errant prononça devant Hakim le nom magique de Hawaï. Lui-même, avouait-il, n'avait jamais vu ce paradis des travailleurs, mais nombre de ses compatriotes de canton y étaient partis et il citait les termes des lettres qu'ils écrivaient à leur famille. On ne connaissait à Hawaï ni le froid, ni la famine. Les cochons, à qui on ne donnait jamais à manger, s'engraissaient des reliefs abondants dédaignés par les hommes. Une famille entière de Canton ou du Yangtze pouvait se sustenter avec ce que gâchait un coulis d'Hawaï. Et quel salaire ! 10 dollars or, soit 20 dollars papier, telle était la paye mensuelle du coulis chinois chez les rois du sucre. En un an, un coulis touchait la somme prodigieuse de 140 dollars papier, plus de 100 fois ce qu'un haleur, en peinant 10 fois plus dur, gagnait près de la 11e cataracte du Yangtze. Bref, tout bien considéré, la situation d'un coulis à Hawaï était 100 fois meilleure et même 1000 fois, compte tenu du travail fourni. À cela s'ajoutait un climat merveilleux.
Quand Hakim atteignit ses 24 ans, il démissionna de l'antique et honorable corporation des Haleurs de la 11e cataracte, malgré les reproches et les coups que lui prodigua sa mère. Celle-ci s'engagea comme servante chez un patron coulis, moyennant un dollar par an, plus un costume d'une valeur d'au moins 30 cents, et lui-même s'embarqua sur le Yangtze pour gagner la grande mer. Nombreuses furent ses aventures et pénibles ses épreuves, avant que, matelot de jonque marine, il parvint à Canton. À 26 ans, il céda, par contrat, 5 années de son existence et de son travail au roi du sucre d'Hawaï, et partit avec 800 de ses congénères pour l'île lointaine, sur un vapeur à moitié pourri, sous le commandement d'un capitaine à demi fou et d'officiers alcooliques.
Lorsque Hakim allait les bateaux, il tenait un rang honorable parmi les travailleurs. À Hawaï, tout en recevant une paie 100 fois supérieure, il était considéré comme l'être le plus bas de l'échelle sociale. Qu'y a-t-il au-dessous d'un coulis de plantation? Mais un coulis dont les ancêtres faisaient remonter aux jonques la 11e cataracte du Yangtze, bien avant l'ère chrétienne, a forcément reçu en héritage à haute dose une qualité précieuse, la patience. Hakim la possédait. Au bout de 5 années, son engagement terminé, il n'avait pas engraissé, mais il manquait juste 10 dollars papier à son compte en banque pour atteindre 1000 dollars. Cette somme lui aurait suffi pour retourner au Yangtze et y terminer ses jours dans la peau d'un homme vraiment opulent. Il eût possédé davantage si, en une certaine circonstance, il ne s'était laissé aller à jouer au fan-tan traditionnel, et si, pendant une douzaine de mois, il n'avait peiné parmi les mille pattes et les scorpions des suffocantes plantations de canne dans la demi-inconscience due à l'usage continu de l'opium. Ce n'était point par scrupule moral qu'il n'avait pas travaillé pendant ces 5 années sous l'influence de l'opium, mais la drogue lui avait coûté trop cher.
En tout cas, il ne retourna pas en Chine. En observant la vie commerciale d'Hawaï, il avait conçu une puissante ambition. Pendant 6 mois, afin de s'initier aux affaires et à la pratique de la langue anglaise, il s'employa dans les magasins de la plantation. Au bout de ce temps, il en savait plus qu'aucun des directeurs. Quand il abandonna cette situation, il touchait 40 dollars or, soit 80 dollars papier par mois, et commençait à se remplumer. Alors il affecta une attitude hautaine envers les simples coulis. Son directeur lui offrit de l'augmenter jusqu'à 60 dollars or, ce qui, en un an, constituerait la somme fabuleuse de 1440 dollars papier, ou 700 fois sa paie annuelle sur le Yangtze, comme bête de somme à 2 pattes à raison d'un 14e de cent or par jonque.
Loin d'accepter, Hakim se rendit à Honolulu, s'embaucha, dans l'emploi le plus humble, au grand magasin généraux de Fong et Cho Fong, pour 15 dollars or par mois. Il y travailla 1 an et demi et en partit à l'âge de 33 ans. Pourtant, à ce moment-là, ses patrons chinois le payaient 75 dollars or par mois. Ce fut alors qu'il arbora sa propre enseigne, société Hakim, commerce en tout genre.
Comme il s'alimentait mieux, on put déjà, sur sa personne moins maigre, percevoir certaines prédispositions en embonpoint.
Avec les années, il continua de prospérer, si bien qu'à l'âge de 36 ans, non seulement sa silhouette s'arrondissait rapidement, mais encore il faisait partie des puissants et exclusifs Ai Gung Tong et de l'association des négociants chinois. Il offrait des dîners dont le moindre lui coûtait plus que ne lui aurait rapporté 30 ans de halage sur la 11e cataracte.
Deux choses pourtant lui manquaient. une épouse et sa mère pour lui appliquer la bastonnade comme autrefois.
À 37 ans, il possédait en banque 3 000 $ or, moyennant 2 500 comptants et une bénigne hypothèque. Il pouvait acquérir le magasin de 3 étages et le terrain sur lequel il s'élevait. Mais en ce cas, il ne lui restait plus que 500 $ pour acheter une femme.
Or, Fu Yupo avait une fille nubile aux menus pieds, comme il convient, qu'il consentait à importer de Chine et à vendre à Hakim pour 800 $ or, non compris les frais de transport. Plus tard, Fu Yupo transigea même à 500 $ comptant et le reste en billets à 6%.
Hakim, âgé de 37 ans, bien portant et célibataire, avait réellement besoin d'une épouse aux petits pieds. Né et élevé en Chine, l'idée immémoriale et profondément enracinée des petits pieds ne se séparait pas chez lui de la conception de la femme. Mais il désirait plus encore les délicieuses corrections maternelles.
Alors il déclina les offres pourtant accommodantes de Fu Yupo et, à bien moindre frais, fit venir sa propre mère.
De servante chez un patron coulis aux gages annuels $1 plus un costume de 30 cents, elle devint la maîtresse de la maison à 3 étages de Honolulu, avec sous ses ordres 2 servantes, 3 employés et un homme de peine. Sans parler des 10 000 dollars d'articles en rayon, allant des crêpes de coton les plus vulgaires aux soies brodées à la main les plus somptueuses.
Déjà à cette époque, le magasin de Hakim commençait d'attirer la clientèle touristique venue des États-Unis. Pendant 13 années, Hakim connut dans la société de sa mère un bonheur passable, recevant d'elle des volées méthodiques pour des raisons justes ou injustes, réelles ou imaginaires. Mais il ressentit bientôt, aussi violent que jamais, le besoin d'une épouse et le désir de fils qui lui succéderait et continuerait la dynastie de la société Hakim.
À 50 ans, l'idéal féminin de Hakim différait totalement de celui de ses 37 ans. Maintenant, il n'aspirait plus à posséder une épouse aux pieds contrefaits, mais une femme libre, à la démarche aisée, aux pieds normaux. Dans ses songeries du jour et ses rêves de la nuit, elle lui apparaissait sous les traits de l'Ifa, la fleur de la lune argentée. Peu importait qu'elle soit 2 fois veuve et fille d'une mère indigène, qu'elle s'affuble de jupes, de corsets et de mules à hauts talons, comme les diablesses blanches, il la désirait. Il lui semblait écrit qu'elle et lui devaient devenir les ancêtres de la postérité qui perpétuerait à travers les générations la propriété et la direction de la société Hakim, commerce en tout genre.
« Je ne veux pas pour Bru une femme à moitié paquet », lui répétait souvent sa mère. « Paquet » est le mot hawaïen qui signifie « chinois ». Ma Bru sera tout entière paquée, comme toi, mon fils, et comme moi, ta mère. Elle portera des pantalons, mon fils, comme toutes les femmes de notre famille. Une femme en jupe et corset ne saurait témoigner à nos ancêtres la vénération qui leur est due. Corset et respect ne vont pas de pair. Cette éhontée de l'Ifa au caractère indépendant ne se montrera docile, ni envers son mari, ni envers la mère de son mari. Cette effrontée se considérerait la fondatrice d'une généalogie et refuserait de reconnaître nos ancêtres. Elle se moque de nos bâtons d'encens, de nos papiers de prière, de nos dieux familiers. Et on m'a bien prévenu.
Madame Changlusi, grommela Hakim.
Pas seulement Madame Changlusi, ô mon fils. Je me suis renseignée. Au moins 12 de personnes l'ont entendu traiter le culte de nos dieux de singerie imbécile. Ce sont les propres termes de cette femme qui mange du poisson cru, de la pieuvre crue et du chien cuit. Nous sommes bêtes comme des singes et pourtant elle voudrait bien t'épouser. toi, un singe. À cause de ton magasin splendide comme un palais et de la richesse qui fait de toi un personnage important. La honte tomberait sur moi et sur ton père mort depuis longtemps dans l'honorabilité.
Hakim admettait sans discuter les bonnes raisons de sa mère. Ce n'était pas en vain que 40 années auparavant, Li Fa était né d'un père chinois affranchi de toutes les traditions et d'une mère indigène dont les ascendants immédiats avaient rompu les tabous et abattu leurs dieux polynésiens pour aller lâchement écouter les sermons des missionnaires chrétiens. Li Fa avait reçu de l'instruction, elle savait lire et écrire en anglais, le hawaïen et pas mal de caractères chinois, et elle prétendait ne croire à rien. Pourtant, au plus profond de son cœur, elle redoutait les sorciers hawaïens, les kahunas, qui pouvaient, elle en était persuadée, chasser le mauvais sort par leur charme ou faire mourir quelqu'un par leurs incantations. Hakim savait pertinemment que Li Fa ne pénétrerait jamais chez lui, ne s'humilierait pas devant sa mère et ne deviendrait point l'esclave de celle-ci, suivant la tradition chinoise. Du point de vue chinois, Li Fa était une femme moderne, une féministe, qui montait les chevaux à califourchon et s'amusait immodestement vêtue sur les surfboards de Waikiki. On répétait en outre qu'à plus d'une luo, une fête, elle avait dansé le houla avec des gens malfamés et causé du scandale. L'acide du modernisme avait également corrodé Hakim, plus jeune que sa mère d'une génération. Certes, il tenait encore aux traditions, et dans les profondeurs les plus mystérieuses de son être, il sentait la main poudreuse du passé s'apesantir sur lui. Cependant, il payait de fortes polices d'assurance sur la vie et contre l'incendie, remplissait les fonctions de trésorier auprès des révolutionnaires chinois d'Hawaï qui voulaient transformer le Céleste Empire en une république. Il contribuait à l'entretien de l'équipe chinoise de baseball qui arrivait à battre les Yankees à ce jeu américain. Il parlait théosophie avec Katsuo Suguri, bouddhiste japonais et importateur de soieries, glissait la pièce à la police, jouait un rôle insidieux dans la politique démocratique d'Hawaï et songeait à acquérir une automobile. Hakim n'osait se représenter à lui-même combien de vieilles croyances il avait cessé de considérer comme articles de foi.
Sa mère appartenait au vieux temps. Cependant, il la vénérait et s'estimait heureux sous sa canne de bambou. Li Fa, la fleur de la lune argentée, appartenait au temps moderne. Pourtant, il ne connaîtrait jamais le bonheur parfait sans elle, car il aimait Li Fa.
Malgré son visage de pleine lune et son crâne rond comme la graine de pastèque, Hakim, négociant avisé, riche de la sagesse acquise en un demi-siècle d'existence, devenait un artiste quand il songeait à elle. Il la parait de poésie, célébrait sa féminité en expressions fleuries et en abstractions philosophiques. Elle était sa fleur de prunier, sa tranquillité faite femme, son pétale de sérénité, son lys de lune et son repos parfait. Et tout en murmurant ses tendres appellations amoureuses, il lui semblait trouver en elle le frisli des eaux vives, le tintement de clochettes d'argent, les parfums de laurier rose et du jasmin. Elle représentait son poème féminin, sa volupté lyrique, son destin et sa chance déterminés avant la naissance du premier homme et de la première femme, par les dieux dont le caprice avait bien voulu créer tous les hommes et toutes les femmes pour la joie et pour la douleur. Mais sa mère lui mit le pinceau dans la main et plaça devant lui la tablette à écrire.
« Peins, lui dit-elle, le caractère qui signifie se marier. »
Il céda sans trop de surprise et avec l'adresse artistique de sa race, traça le hiéroglyphe symbolique.
« Explique-le, ordonna la mère. »
Hakim la considéra, désireux de lui plaire et se demandant où elle voulait en venir.
« De quoi est-il composé ? Insista-t-elle. Quels sont les trois signes originaux qui constituent « se marier »,« mariage », »,« l'union d'un homme et d'une femme » ?« Peins-les. » Peins-les séparément. Les trois signes originaux, sans les mettre en rapport entre eux, de façon que nous puissions voir comment les sages d'autrefois ont formé le caractère de se marier.
Hakim obéit et s'aperçut qu'il venait de peindre les signes représentatifs d'une main, d'une oreille et d'une femme.
Nomme-les, dit-elle, et il s'exécuta. C'est bien cela, poursuivit Madame Taifu. Et ces signes sont un symbole remarquable. Tel était au commencement le mariage, et tel il demeurera toujours dans ma maison. La main de l'homme saisit l'oreille de la femme, Il la conduit ainsi chez lui, où elle devra obéir à lui et à sa mère. Ton honorable père, mort depuis longtemps, m'a emmenée dans sa maison par l'oreille. J'ai regardé ta main, elle ne ressemble pas à la sienne. J'ai examiné aussi l'oreille de Lifa. Jamais tu ne la conduiras par cet organe. Je compte vivre encore longtemps. Et jusqu'à ma mort, je veux rester maîtresse dans la maison de mon fils, suivant nos anciennes coutumes.
Désolé, mon aïeul vénéré, expliquait Hakim, intimidé et malheureux.
Lifa s'étant assurée que Mme Taïfou se trouvait au temple de l'Esculape chinois, à qui elle voulait offrir du canard séché et des prières pour sa santé chancelante, avait saisi cette occasion pour venir au magasin faire visite à Hakim. Lifa, plissant ses lèvres insolentes et non peintes en la forme d'un bouton de rose à demi épanoui, lui répliqua :
Cela se passe peut-être ainsi en Chine, mais je ne connais pas ce pays. Nous sommes en Hawaï, et ici, tous les étrangers changent leurs coutumes.
Elle n'en reste pas moins mon ancêtre, protesta Hakim. La mère qui m'a donné le jour que j'habite la Chine ou Hawaï, aux fleurs de la lune argentée que je désire pour épouse.
J'ai déjà eu deux maris, exposa avec calme Lifa. Un paquet et un portugais. Des deux, j'ai beaucoup appris. De surcroît, j'ai reçu de l'instruction. J'ai fréquenté l'école supérieure et je puis jouer du piano en public. Oui, j'ai acquis une grande expérience auprès de mes deux maris. Les paquets font les meilleurs époux et je ne me remarierai jamais avec un autre qu'un paquet. À condition, toutefois, qu'ils ne me saisissent point par l'oreille.
D'où savez-vous cela ? Fit-il avec méfiance.
Madame Changloussi, répondit-elle. Madame Changloussi me rapporte tout ce que votre mère lui raconte et votre mère lui dit beaucoup de choses. Moi, je vous certifie que mon oreille n'est pas faite pour cela.
C'est ce qu'affirme ma mère vénérée, murmura Hakim.
Votre mère vénérée l'a dit à Madame Changloussi qui me l'a répété, acheva Lifa. Et maintenant, je vais vous apprendre, ô mon futur et troisième époux, que l'homme n'est pas encore né qui me mènera par l'oreille. Ce n'est pas l'habitude en Hawaï. Je marcherai seulement la main dans la main de mon époux, côte à côte. Je serai son égal. Mon mari portugais était d'un sentiment différent. Il essaya de me battre. Je l'assignai trois fois au tribunal de simple police et les trois fois, il purgea sa peine sur le récif. Après quoi, il se noya.
Ma mère est ma mère depuis 50 ans, déclara fermement Hakim.
Et depuis 50 ans, elle vous bat, ricana Lifa. Je vous considère comme un homme honorable et bon. Et quelques jours, quand il ne faudra plus que vous me preniez par l'oreille, je vous épouserai. Je viendrai ici, je resterai près de vous et vous rendrai le paquet le plus heureux de tout Hawaï. Car j'ai eu deux maris. J'ai fréquenté l'école supérieure et mis en temps à rendre heureux un époux. Mais cela ne se réalisera que quand votre mère aura cessé de vous battre. Madame Changloussi m'a rapporté qu'elle a la main plutôt lourde.
Ça oui, acquiesça Hakim. Regardez.
Et relevant ses larges manches, il découvrit jusqu'au cou de ses avant-bras aux rondeurs enfantines. Il s'ornait d'échymoses bleues ou noires, démontrant la virulence et le nombre des coups dont il avait réussi à protéger son crâne et son visage.
Mais elle ne m'a jamais fait pleurer, se hâta-t-il d'ajouter. Jamais depuis mon enfance, elle n'a réussi à me faire verser une seule larme.
C'est ce que dit encore Madame Changloussi, fit Lifa. Votre honorable mère s'est plainte à elle de n'être jamais parvenue à humecter vos yeux.
Un des employés émit, trop tard, un sifflement d'alerte. Ayant regagné sa maison par la ruelle de derrière, Madame Taïfou, venant des pièces d'habitation, arrivait droit sur eux. Jamais Hakim n'avait vu dans les yeux de sa mère de telles lueurs de colère. Sans paraître remarquer la présence de Lifa, elle s'écria
« Cette fois, je vais te battre à t'en faire pleurer !»«
Allons dans les pièces de derrière, honorable mère, » proposa Hakim. « Nous fermerons les fenêtres et les portes, et tu me battras à volonté. »«
Non !»
Ici même, tu seras rossé devant tout le monde et en présence de cette femme éhontée qui, elle, voudrait te prendre par l'oreille et appeler mariage un tel sacrilège. Reste ici, femme impudique.
Je n'ai nullement l'intention de partir, Philippa.
Et lançant au commis un coup d'œil menaçant, elle ajouta...
Je voudrais bien voir que quelqu'un, à part la police, me fasse sortir. Tu ne seras jamais ma bru.
Lifa acquiesça d'un signe de tête.
Pourtant, votre fils sera mon troisième mari.
Tu veux dire après ma mort,
glapit la vieille. Le soleil se lève chaque matin, dit Lifa d'un air énigmatique. Toute ma vie, je l'ai vu se lever. Tu as 40 ans et tu mets un corset. Mais je ne me teins pas les cheveux. Cela viendra plus tard, riposta Lifa sans s'émouvoir. Pour ce qui est de mon âge, vous avez raison. Je vais avoir 41 ans. Depuis 40 ans, je vois le soleil se lever. Mon vieux père me disait peu avant sa mort que depuis son enfance, il n'avait jamais vu aucun changement dans le lever du soleil. La terre est ronde. Confucius ne le savait pas, mais on l'enseigne dans toutes les géographies. La terre est ronde et tourne continuellement sur elle-même et en cercle. Et les saisons et les époques de la vie tournent avec elle. Ce qui est, a déjà existé. Ce qui a été, existera de nouveau. Le temps de l'arbre à pain et du manguier revient toujours. L'homme et la femme se renouvellent. Au printemps, les rouges-gorges font leur nid, les pluviers arrivent du nord. Chaque printemps en précède un autre. Le cocotier s'élève dans l'air, amène ses fruits à maturité et dépérit. Mais il y a toujours des cocotiers. Tout ce beau discours n'est pas de mon invention. Mon père m'en a appris la plus grande partie. Continuez, honorable Madame Taifu. Battez votre fils, mon futur troisième mari. Mais je vous préviens, je ne ferai qu'en rire.
Hakim se laissa tomber sur les genoux comme pour faciliter la besogne à sa mère. Et pendant que pleuvaient les coups de la canne de bambou, Lifa souriait et pouffait pour enfin rire aux éclats.
Plus fort, ô honorable Madame Taifu, criait-elle entre deux accès de gaieté.
Madame Taifu frappait de son mieux, mais elle manquait visiblement de vigueur. Tout à coup, de surprise, elle laissa tomber la canne à son côté. Hakim pleurait. Le long de ses joues, de grosses larmes rondes se succédaient. Lifa le considérait avec étonnement, de même les commis, bouche bée. Mais le plus stupéfait de tous était Hakim. Il ne parvenait pas à arrêter le flot de ses larmes. Bien que la grêle de coups eût cessé, il continuait de pleurer.
« Mais pourquoi pleuriez-vous ? » lui demandait souvent Lifa par la suite. « C'était tellement ridicule. Elle ne vous faisait pas mal ?»«
Attendez notre mariage. » répondait invariablement Hakim. Et alors, au lys de lune, je vous l'apprendrai.
Deux années plus tard, un après-midi, Hakim, ressemblant plus que jamais à une graine de pastèque, rentrait d'une séance de la Société protectrice des Chinois. Et il trouva sa mère morte sur son lit. Plus que jamais, le front de la vieille aux cheveux tirés en arrière apparaissait inexorable. Mais sur son visage ridé se figeait un sourire. Les dieux s'étaient montrés cléments en lui accordant une mort sans douleur. Hakim téléphona aussitôt à Lifa, mais ne la rencontra que chez Madame Chang Lucy. Il lui apprit la nouvelle et le jour de leur mariage fut aussitôt fixé à une date 10 fois plus rapprochée que ne l'eût exigé la vieille étiquette chinoise. Et s'il existe quelque chose d'analogue à une demoiselle d'honneur dans une noce chinoise, Madame Chang Lucy en remplit joyeusement le rôle.
Pourquoi ? Demanda Lifa à Hakim quand le soir du mariage ils se trouvèrent enfin seuls. Pourquoi avez-vous pleuré ce jour où votre mère vous a battu dans le magasin ? Ses larmes paraissaient ridicules. Elle ne vous faisait pas le moindre mal.
C'est pour cette raison que j'ai pleuré, répondit Hakim.
Lifa le regarda sans comprendre.
J'ai pleuré, expliqua-t-il, parce que je me suis brusquement aperçu que ma mère approchait de sa fin. Ses coups inoffensifs ne possédaient plus aucune vigueur. J'ai pleuré en constatant qu'elle n'avait plus la force de me faire mal. Voilà pourquoi j'ai pleuré. Ma fleur de sérénité, mon repos parfait. Telle était la seule raison de mes larmes.
Waikiki, Honolulu, 16 juin 1916, Jack London.
C'était Nouvelles des États-Unis, choisie et présentée par Marie-Claire Pasquier. La nouvelle de Jack London que nous avons écoutée, Les larmes de Hakim, a été traduite par Louis et François Postif. Les lecteurs étaient Cécile Amcy, Claude de Rep, Jean-Bernard Guillard. Prise de son, Patrice Klein. Mixage, Claude Courteau. Réalisation, Jacques Taroni. Pour terminer l'émission Nouvelles des États-Unis, nous écoutons de Robert Ashley, Perfect Lives.
Bagley Morgan, double keyboard, speakers and video, cassette. Continuing education from the music store. 30 easy lessons, just do as I do, watch. C-C-E-E-C-C-G-G-C-C-B-B-C-C-G-G, always.
Boogie Woogie is the vessel of the eternal present. That's the only way to use that word. She speaks of nowness. Everything is now, Robbie. Be with me now. Now. Give me a little love and now. This is all. Rodney's going crazy. His sense of now is rusty. The Airstream and its obligation. Six nights at the bar. The Magnum double keyboard organ. Patterns in a tapestry of one crash among. No, not among. In the line of crashes to eternity. Separated by Buddy. Could we have the cowlick, please? Blink. Two. Left. Four leg. Forward. Blink. Etc. It has not occurred to Rodney that he could lie down with animals. The bar is bad enough. Now he's met his nemesis. Nemesis is face to face. And this brown fellow in his $800 suit, his priceless shirt and blue shoes made up the sky, and with a smiler at his side, has just come in the bar on Rodney's shift. All four. Brown fellow, but he speaks again. The moment is forever. Structure is a performance of mind and what is ahead of us and what's behind. The drone in all its forms must amplify the moment to career dimensions. It is the necessity of practice for those who are engaged. Otherwise, i.e. if you are not engaged, out of work, at your leisure, call it what you will, the moment has its own dimension. You can find it anywhere. It is the abyss of the click. Thunder, my teacher said, is but a click. That took years to understand. Aimlessly I wandered on the plane of time. I planned dot, dot, dot intersections. I drew intersections. Each was less clear than the last. And friends in physics, beg your pardon, said, it's simple, been the plan. I said, don't you watch the movies that's been tried, and there was no relief. The Spanish tried, they curved their mustache to the plane of time, and there was no relief. It only leads to laughing. Laughter is relief for those who are engaged. I was engaged, engagé, big deal, the click says. Thunder, endless thunder, and the rolling plains comes back to us in time like news. It's bigger than we thought. The pressure drops wild out to the Mississippi. There is still time. Insert. Call the groom, just the bride. This is the envelope of the click. It lifts us in our own air. It makes us pure. It is our ceremony. It is our reason. In Wyoming, it is heard upward. That's the word forever. And sideways on the plain to at least the Mississippi, the Holy River. Imagine the great curved plain, the plains, and all its markings. We were here and watch your water in markings on a scale of centuries. The earth is drawn upon, drawing like lipstick on a mirror. In a scale of centuries to be seen, and our presence read through the lens that is the moment of the click. Lens to lens, touching self to self, the inside, and that's the word to the outside. A word, if that's the word forever. Forgetful of the plane, its markings, the intersections, the plans. Forgetful of the versions, the performances. You may kiss the bride, lips to lips, plane to curved plane. Proximity of markings, the nearness of markings, which is why they were abandoned as our work here finally, in favor of smaller things. Likenesses. Markings on a scale of centuries are simple, process, deliberate. This is the beginning, and this here is the end, drawn on the plane of intent. Big deal, the click says. Look directly at the lens, please. Smile. There you go. Short pause. The self speaks only to self, interchange of light, spices,
It is sufficient to every moment of the world. It is all connections. It is all moments of the universe. It is flawless in all perfection. It is visible and imminent. It is devotion without impatience. It is understanding, all compassion and delight. It is riches. It is all permanence. It is the silence in the body incarnate, limitless and manifest. It is the rightness of our imagination. It is the fire measureless. It is all presence. It is what we know, and it is complete. The interchange of light suffices. It is the knowable and unbounded. It is fullness without desire. It is the decided. The interchange of light is final and suffices. Just a sip or two and Buddy talks this way. The gift of chemistry. It was invented, and within a generation everybody had it. That's in the record. Faster than aviation, faster than money, the news went round the world. Cooking is obsolete. You don't have to burn the chicken anymore to get heat. It comes in bottles right here at the bar. Yourself, poor as a church mouse, can blast open with sheer heat the sacred doors between the left and right. The virgin spinster music in the castle welcomes with open arms, cigar-smoking tongue in its mighty plans for past and future. Hot diggity, oh boy, we can have kids, and they will speak a seamless merger of poetry and sound. The great stories shall be told again. For instance, he saw her and burst into flames. Spontaneous combustion. Another case of sheer heat. The instruction booklet with the videotapes says the following in small type. An apology of sorts, one thinks, for the isolation one feels in learning, exaggerated or just amplified by the actuality of isolation in the airstream, locked in the plane of intent on which markings of the history of boogie-woogie stretch out in all directions. I think that's the way history stretches out. Quote, television is neither true nor false. It's industry. 7, 5, 3, 2. Television made without industry. Alone in a word. 6, 4, 3, 2. A sinking feeling. There can be a loss of trust. 6, 4, 2. Fear not darkness, i.e., not industry, nor your own desire. Everybody works to be a part of industry. To be a part of industry is to be real. 6, 4, 3. If you're a part of industry, both in your industriousness and in the nature of your work, there's a chance that everybody will like your work, because it is a part of industry. And things that are not part of industry are not possible to like.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 25 mai 1986. Vous pouvez la télécharger pendant un an et la réécouter à volonté sur le site franceculture.fr.